Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Dans cette émission, on parlera en seconde partie d'émission de l'accueil des élèves sourds au lycée Nelson Mandela de Poitiers. On vous donnera aussi quelques autres bons plans sortis et des recommandations musicales. Elles seront toutes locales d'ailleurs aujourd'hui. Et on accueille tout de suite notre première invitée du jour, c'est Patrice Butch, qui est directeur du secteur de la Poste Poitiers Couronnerie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette réouverture du bureau de poste de Poitiers Couronnerie. Réouverture qui était très attendue par les habitants. Hein.
Absolument, très attendue par les habitants, très attendue aussi par les postiers. Voilà, on avait à cœur de pouvoir réouvrir le bureau au cœur du quartier des Couronneries et on a été très très bien accueillis par les habitants d'ailleurs. C'est une très très belle expérience qu'on a vécue ensemble, tous ensemble.
Pour rappel, malheureusement, le bureau de poste avait dû fermer suite aux émeutes. Quelle était l'ampleur des dégâts à ce moment-là?
En fait, le bureau était totalement incendié, donc il ne reste absolument plus rien. Le bureau était devenu une coquille vide, il n'y avait plus rien. Tout a pris feu et on n'a rien retrouvé, en fait. Voilà.
Et comment ça s'est passé pour les équipes qui travaillaient dans ce bureau de poste?
Notre principale préoccupation, c'était la continuité de service, parce qu'on savait très bien qu'il y aurait une migration des habitants de Couronnerie sur d'autres bureaux de poste. Donc il a fallu réagir très très vite et on a proposé à nos collaborateurs de travailler dans d'autres bureaux. Donc la Poste Centrale, la Poitiers Hôtel de Ville et puis l'autre bureau qui était Poitiers-Beaulieu. Voilà.
Donc il a fallu un an et demi hein, pour,
16 mois,
pour ouvrir, 16
voilà.
mois, à peine moins. Donc, quels ont été les principaux défis qu'il a fallu relever pour réouvrir?
Donc le principal défi, c'était de retrouver un local qui soit adapté à une activité d'un bureau de poste et de trouver un local qui soit le plus proche possible de l'ancien bureau en plein cœur du quartier des Couronneries. Donc en fait, on a eu la chance que le Crédit Mutuel ne revienne pas dans ses anciens locaux, qui est situé à 50 mètres de l'ancien bureau de poste, donc place Coimbra exactement comme l'ancien bureau. Et donc ensuite, le temps de faire les travaux, le temps de signer le bail, etc., pour pouvoir réouvrir, ce qui nous a permis de faire la réouverture. Alors, l'échelle du temps n'est pas la même pour tout le monde, mais pour un projet de cette envergure, 16 mois, c'est relativement court en réalité. Voilà.
Les gens, effectivement, étaient impatients. Vous avez rouvert, c'était
le 4 novembre.
C'était juste après le décès, malheureusement, d'Anis.
Oui.
C'est un petit peu une conjonction de, voilà, d'événements. C'était pas du tout prévu que ça tombe à ce moment-là. Comment ça a été accueilli, justement
Alors, nous, au niveau équipe, on a eu l'information, effectivement, le week-end précédent l'ouverture. Alors, enfin, mis à part le drame que ça représente, évidemment, ça nous a remonté quand même des vieux souvenirs. On a eu peur que le quartier s'embrase et que ça recommence en réalité. Donc on a passé un très 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 mauvais week-end. On n'était pas sûr de pouvoir retrouver le bureau en l'état. Voilà, en toute honnêteté, c'était ça. Ouais, donc, et puis le fait de faire ressurgir le traumatisme, parce que c'est quand même un traumatisme hein, de perdre son outil de travail comme ça. Et puis finalement, le jour de la réouverture, on était quand même très très soulagés de voir l'accueil des clients qui venaient nous voir. On a beaucoup de clients qui sont simplement rentrés dans le bureau de poste, pas pour faire une opération postale ou bancaire, mais simplement pour nous dire qu'ils étaient heureux de nous retrouver. Voilà.
Et justement, c'était peut-être important de montrer que les services publics, les services au public sont présents dans ces quartiers.
Absolument. Et la Poste est un des services publics principaux, en tout cas, même sur des quartiers prioritaires de la ville, hein, comme les Poitiers-Couronneries. Et on est un lieu de rencontre et d'échange pour tous les habitants. Et on a aussi des vraies missions de services publics. Hein, et on ne fait pas que des opérations postales ou bancaires. Et de temps en temps, on aide aussi des gens qui se retrouvent en difficulté. Voilà.
Et alors, est-ce que vous avez prévu, vous parliez de traumatisme, des mesures de sécurité particulières pour ce bureau ?
Pour la réouverture, on a demandé la présence d'un vigile qui est encore là. Mais bon, enfin, globalement, il n'y a pas de problématique majeure sur le quartier. Les gens nous connaissent, ils sont contents de nous revoir. Le vigile est plus là pour faire une fluidité par rapport aux gens qui rentrent dans le bureau. Et puis, c'est un côté aussi rassurant par les équipes. Mais honnêtement, on n'a pas de soucis majeurs par rapport à ça.
Est-ce que vous avez profité du fait de réouvrir dans un nouveau
oui.
local pour agrandir ou pour proposer de nouveaux services, pour vous réadapter?
Alors, pour ce qui est du personnel en tout cas, l'ergonomie est à son maximum. On a les bureaux de poste dernière génération avec un parquet magnifique, etc. En termes de nouveaux services, on va offrir effectivement un nouveau service qu'on n'offrait pas dans l'ancien bureau. C'est la possibilité aux gens du quartier de passer le code. Donc à partir du mois de janvier 2025, normalement, tous les gens qui voudront passer le code de la route, permis bateau, enfin deux roues, pourront passer.
Et alors justement, dans les besoins des usagers, dans les demandes, est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles par rapport à il y a quelques années et que vous pouvez maintenant offrir dans ces nouveaux bureaux de poste ?
Alors, nouvelles non, parce que même dans l'ancien bureau, on avait la présence du PIMS, qui est un médiateur numérique et qui continue aussi à intervenir sur le bureau chaque vendredi. Donc pour l'inclusion numérique des populations qui se retrouvaient en difficulté. Et c'est un service qu'on continue à offrir dans de meilleures conditions parce que forcément les locaux sont plus adaptés pour ça, avec un local qui est bien, bien spécifique et un petit peu isolé. Donc tout a été fait pour que ça se passe du mieux possible. Et on était déjà un petit peu dans l'avant-garde, même dans l'ancien bureau. Donc à part le code, il n'y a pas de nouveau service en tant que tel.
Et est-ce que justement, enfin, là j'entends dans ce que vous proposez, est-ce que vous avez l'impression de contribuer un petit peu au lien social dans ce quartier ?
On contribue vraiment au lien social. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le bureau de poste, c'est un vrai centre d'attractivité pour le quartier. Les commerçants, majoritairement, ont subi une perte du chiffre d'activité et de fréquentation parce que beaucoup de gens viennent à la poste et en profitent quand ils viennent à la poste pour faire d'autres achats. Et on est un lieu de rencontre, voilà. Donc on est le centre d'attractivité pour tout le tissu économique du quartier et aussi un lieu de rencontre pour les gens qui viennent nous voir pour différents problèmes et on les oriente vers les structures adéquates.
Donc un peu une locomotive pour le quartier.
Je l'espère.
Et alors j'imagine qu'en termes d'accessibilité, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, là vous êtes...
On est au taquet, hein, c'est comme ça qu'on dit chez les jeunes. Voilà, non, on a un bureau en bas pour les personnes à mobilité réduite. Pareil pour l'inclusion numérique, tout est fait au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de problème.
Et quel a été, donc vous disiez l'accueil, les gens sont venus même juste par curiosité. En termes de fréquentation, quels sont un petit peu vos objectifs si vous en avez déjà ?
Alors la fréquentation avant incendie, on était aux alentours de 250-260 fréquentations de clients par jour. Donc là, la réouverture, tout le monde n'est pas forcément au courant que le bureau a réouvert. Donc on n'est pas encore à cette attendue-là, mais normalement, d'ici quelques semaines, on devrait logiquement retrouver le même site de fréquentation. À peu près, hormis les périodes, ce qu'on appelle chez nous les pics périodes, à Noël avec les colis, etc. À peu près entre 250 et 260 clients par jour.
Et alors, la baisse du courrier n'a pas remis en question le fait d'avoir un vrai bureau de poste aux Couronneries. On voit que Poitiers Sud, c'est un petit peu en questionnement de le faire disparaître pour un relais. Là, ce n'était pas en question.
Ah non, pas du tout. Non, c'est, la question ne s'est jamais posée de savoir si on allait réouvrir ou pas le bureau des Couronneries. Il n'y a pas de... La zone de chalandise, entre guillemets, c'est 30 000 habitants. Quand on rajoute la commune de Buxerolles à côté, on a 30 000 personnes qui vivent sur le quartier des Couronneries.
Ça, c'est rien que 9 000 pour les Couronneries, plus...
C'est plutôt 10 000 pour Buxerolles et 20 000 pour les Couronneries, en réalité. Voilà, c'est notre zone d'instance. Voilà.
Donc, c'était indispensable,
c'est indispensable
de revenir.
Et la question ne s'est jamais posée.
Merci beaucoup donc d'être venu dans Séquence Midi. Vous êtes donc le directeur de ce Chris Butch. Merci d'être venu dans Séquence Midi nous présenter cette réouverture importante pour le quartier.
Merci de m'avoir invité.
On continue en musique. Je vous le disais, c'est de la musique locale aujourd'hui. C'est Nicolas Moreau. Son dernier album Tout va pour le mieux est sorti cette année. Voici le titre Le Melon.
Il s'invite au cocktail, il hante le buffet, il connaît bien un tel, il tutoie le préfet, il porte des foulards, fréquente les salons, il a le boulard, il a le melon, il a le boulard. Gros comme un ballon, il a le boulard. Il a le melon, il a le bout gros comme un ballon, il a le boulard, il a le melon. Mondains et noctambules l'écoutent bavasser. Sa bouche fait des bulles quand il se fait mousser. Il disserte de l'art, du bon goût, c'est selon. Il a le boulard, il a le melon, il a le boulard. Gros comme un ballon, il a le boulard. il a le poulard. Oh, 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 comme un ballon, il a le poulard. Il a le melon. Son air rigide, sa mine compassée et sa tête turgide de cucurbitacé, les chevilles plus larges que son pantalon, il a le boulard, il a le melon.
Il a le boulard.
Et on accueille tout de suite Kevin Saunders, qui est enseignant de français, et Claire Marolo, qui est professeur de mathématiques au lycée Nelson Mandela. Bonjour.
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 Bonjour à tous les deux. Merci d'être là pour nous parler, pour nous alerter sur une situation que vous vivez au lycée Nelson Mandela. C'est dans l'accueil des élèves sourds. Expliquez-nous déjà quelle est leur place dans le lycée. Voilà, jusqu'à présent, et je sais que cette année, il y a plus de difficultés que d'habitude, mais à peu près combien ils sont et comment ils sont accueillis en temps normal?
Oui, donc nous, notre lycée Nelson Mandela, il est pôle d'accueil des jeunes sourds. Il fait partie des 3 lycées de Poitiers qui accueillent des élèves sourds depuis, en fait, disons qu'on a voulu inclure avant, ils étaient dans des établissements spécialisés et depuis quelque temps, on les inclut dans les établissements généraux. Ils sont, dans notre lycée, ils sont 3. Cette année, ils étaient 4 ou 5 l'an dernier. Et ils sont inclus dans les classes avec les autres élèves.
Et donc, normalement, ils sont inclus grâce à des personnes qui viennent soutenir les professeurs, donc des personnes qui interprètent en langue des signes. C'est ça qui se passait jusqu'à présent.
Oui, nous avons une interprète qui leur est allouée. Cependant, nous rencontrons des soucis parce que le nombre d'heures d'interprétariat est inférieur au nombre d'heures de cours des élèves. Donc ils ont à peu près la moitié des heures de cours interprétées, ce qui pose souci évidemment pour les professeurs, pour les élèves et même pour l'ensemble de la classe pour les heures où il n'y a pas d'interprète. Ça, c'est très compliqué.
Et comment on arrive à cette situation où il n'y a plus que la moitié à peu près des cours qui sont interprétés?
Alors en fait, le nombre d'heures d'interprétariat est resté le même par rapport à l'année dernière, donc on nous répond qu'on n'a pas baissé le nombre d'heures d'interprétariat. Le problème est que les élèves sont maintenant répartis dans 2 classes. Nous avons 2 élèves en seconde et 1 en première. Et du coup, le nombre d'heures a été réparti. Il y avait 24 heures, disons, et puis il y en a 12 heures pour les élèves de seconde et 12 heures pour les élèves de première. Et alors qu'avant, comme ils étaient tous dans la même classe, les 24 heures étaient dédiées à une seule classe.
Et ça, vous aviez alerté peut-être déjà l'année dernière?
Eh bien, c'est-à-dire que, en fait, c'est global, hein, c'est pas que notre établissement, c'est-à-dire que des élèves sourds, il y en a une vingtaine d'accueillis dans les établissements à Poitiers. Et forcément, ben, les élèves, ils ont le même cursus que les autres, ils choisissent leur orientation, donc ils vont pas suivre les mêmes filières. Donc forcément, quand on met en place un projet comme celui-ci, eh ben on doit penser qu'il va y avoir besoin de plus de moyens. On peut pas, mettre les mêmes moyens l'année suivante, alors que les élèves sont dans des classes différentes, ils ne pourront pas avoir le même nombre d'internes. Donc on a alerté effectivement et on a envoyé une lettre au rectorat cette année. On n'a pas de réponse pour l'instant.
Et qu'alors, expliquez-nous pour vous, professeur, comment ça se passe concrètement quand vous avez un élève sourd dans votre classe? Il faut adapter, j'imagine, mais là, vous ne pouvez pas lui faire accéder à tous vos enseignements, en fait.
Alors exactement, c'est le gros souci que nous rencontrons. Quand l'interprète est là, c'est correct. Mais moi, je suis confrontée à des heures où je n'ai pas d'interprète. Et là, mon travail est complètement différent. Donc, je suis obligée de m'adapter. Pour cela, je n'ai aucune aide de l'institution. Nous n'avons pas de stage ou de formation quant à l'apprentissage de la langue des signes. Nous n'avons pas non plus. Il y existe des moyens, des pistes, des solutions, mais nous n'en avons pas connaissance parce que nous n'avons aucune formation. Donc on fait avec les moyens du bord. On se sert d'applications, de transcription de la voix orale sur les téléphones. Mais bon, c'est pas satisfaisant. Hein. C'est vraiment ponctuellement, ça peut me servir un petit peu. Mais on est vraiment en difficulté. Nous, en tant que prof, les élèves forcément, les élèves sourds, mais aussi les élèves, les autres élèves de la classe, pour qui l'enseignement n'est pas optimal, vu qu'on prend beaucoup de temps pour les élèves sourds, bah c'est du temps perdu pour les autres élèves. Donc on ne peut pas se diviser.
Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est difficile quand on n'est pas sourd, mais en fait quand on est sourd, on n'entend rien. C'est la définition, mais vraiment rien. Donc en fait, on ne peut percevoir que ce qu'on voit. Et un cours, disons qu'un cours qu'un professeur fournit à une classe lambda, c'est 90% c'est de la parole et on va écrire, mettons, 10% des choses au tableau et on fait essentiellement de la remédiation. Sinon, il n'y aurait pas besoin de professeur, c'est-à-dire que les gens iraient sur Internet et ils liraient des cours et voilà. Mais on est là pour, en fait, la particularité de notre métier, c'est de transmettre et de remédier à ce qu'on écrit au tableau. Les élèves sourds n'ont accès qu'à 10% du cours, en fait, quand il n'y a pas d'interprète. C'est ce qui est écrit au tableau. Donc, on écrit beaucoup au tableau pour compenser. Et par ailleurs, cette langue qu'on utilise au tableau, il faut le dire aussi, n'est pas la langue des sourds. C'est-à-dire que le français écrit est une langue étrangère pour eux. Il n'y a pas de correspondance entre la langue des signes et la langue écrite. C'est un code complètement nouveau. C'est une langue aussi étrangère que pour nous. Si on devait apprendre le chinois, il n'y a pas de correspondance. La langue des signes, c'est une langue de gestes et qui a sa propre syntaxe. Et donc, on est vraiment... C'est proprement... C'est scandaleux parce qu'ils n'ont... En fait, ils ont accès à 10% et encore, on est gentil parce que c'est 10% d'une langue étrangère. Enfin, il faut, je sais pas.
Sachant qu'on est à Poitiers, qui est une ville reconnue pour l'accueil des élèves sourds, des personnes sourdes en règle générale, il y a une vraie inégalité que vous soulignez là. Et vous avez commencé à évoquer plusieurs pistes. Déjà, la formation peut-être des enseignants pour avoir des outils, déjà dans un premier temps.
Ça, ce serait une des pistes. Ça, c'est une des pistes. Tout en, effectivement, on voudrait qu'on soit déchargé à ce moment parce que on a beaucoup de réunions aussi en plus, parce que étant lycée pôle d'accueil, on nous donne beaucoup d'informations, on demande beaucoup de travail en plus, effectivement, puisqu'il faut adapter. Mais la solution première, c'est qu'ils aient des heures d'interprète, en fait.
Tout simplement.
C'est tout simplement.
Ça, c'est la solution numéro un. Oui. Ensuite, éventuellement, pouvoir s'adapter grâce à du temps déchargé pour ça et du temps de formation.
Voilà, oui.
Voire même, vous sembliez prête à apprendre la langue des signes le long terme. Alors, ça, c'est plutôt sur.
Ah, voilà, bien sûr, oui.
C'est pas, ça se fait pas en quelques.
Non, c'est sûr, hein, bien sûr, après.
Et surtout que, sachant qu'ils ne lisent pas du tout sur les lèvres. Parce que il y a certains sourds qui lisent un peu sur les lèvres. Donc, en les regardant bien, on pourrait un peu pallier au problème. Mais là, ce n'est pas du tout le cas.
Alors, vous vous êtes mobilisés, hein, vous, les parents d'élèves, pour manifester face à cette inégalité. Comment s'est passée cette mobilisation?
Alors, je sais que les parents d'élèves, ouais, ils ont fait une manifestation devant le rectorat il y a un
octobre,
mois à peu près. Ouais.
Mm-hmm.
Alors, je ne sais pas quelles ont été les conséquences. Est-ce qu'ils ont eu des résultats, je ne suis pas trop au courant de...
C'était l'Association de langue pour une éducation qui avait mis ça en place. Il y avait à peu près 70 personnes lors de cette manifestation. Mais vous, quels sont les moyens de pression, entre guillemets, pour faire évoluer la situation?
Participer comme aujourd'hui à une émission, essayer de faire un petit peu parler de nos soucis que nous rencontrons. nous, ce qu'on voudrait, c'est que le rectorat nous entende, quoi. C'est pour nous la... Et puis, alors les moyens ne sont pas alloués seulement par le rectorat. Nous avons appris aussi que la région était censée, enfin, doit donner des moyens. Donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait un contact à la région pour voir ce qui peut nous apporter de plus pour nous aider.
C'est-à-dire que c'est explicité dans la loi, hein, qu'ils doivent avoir accès à la même éducation que les autres. Et or, ce n'est pas du tout le cas. Ils y ont accès, mais vraiment un très faible pourcentage. Alors, les moyens d'action, on témoigne. Et après, on pensera à d'autres moyens d'action si jamais le silence reste le même. Et je pense que ça concerne aussi pas seulement les élèves sourds, mais les autres élèves, eux-mêmes, ils sont scandalisés, en fait. Et ils voient leurs camarades perdus, en fait, dans ces cours et ne comprennent pas comment c'est possible. Eux-mêmes, ils apprennent la langue des signes parce que c'est ça qui est beau quand même avec les jeunes, c'est qu'ils réagissent très vite et ils ont envie de communiquer. Mais je pense que les familles doivent aussi réaliser ce qui se passe, même y compris les familles des élèves non sourds. Comme disait ma collègue, ça ralentit le cours pour tout le monde aussi, puisqu'on écrit énormément au tableau pour se faire comprendre. On utilise des stratégies aussi autres. Et ça a un impact sur tout le monde, en fait.
Parce que c'est une stratégie vraiment nationale de permettre d'inclure les élèves en situation de handicap en milieu classique. Hein. Mais là, ce que vous pointez du doigt, c'est que les moyens ne vont pas forcément avec les envies, quoi.
Exactement.
On est vraiment pour l'inclusion. Enfin, ça, c'est indéniable. On peut pas. Mais le fait de fermer des instituts, des places en instituts... on devrait pouvoir récupérer les moyens qui étaient alloués avant à ces instituts pour l'inclusion, quoi. Et on a l'impression que c'est pas le cas, quoi. Enfin, en gros, l'objectif, c'est la réduction des budgets, mais...
Et d'abandonner des élèves, en fait. D'abandonner des élèves...
Pour nous, c'est un abandon.
Élèves, la scolarité des élèves, quoi, auxquels ils auraient droit, normalement.
Est-ce que vous voyez déjà des impacts sur leur scolarité? Vous le ressentez déjà là, en novembre, où ils arrivent pour l'instant encore à s'accrocher?
Alors, nous, on a deux élèves sur les trois là, en seconde, tous les deux. Une des élèves est arrivée avec un très bon niveau, donc j'ai l'impression que ça se passe bien pour elle. Mais on a un deuxième élève qui a un petit peu de difficultés et qui a tendance un petit peu à baisser les bras et à être il est un peu en colère contre le manque d'aide, quoi. Et il se retrouve un petit peu en difficulté, quoi. Et je pense que c'est vraiment dû à ce manque d'interprétariat. Il se sent délaissé, quoi. Alors qu'on essaye de faire vraiment tout, d'aller vers lui. Mm-hmm. Mais il y a une colère qui est difficile et qui est justifiée, quoi, qui est tout à fait légitime.
Mmh. C'est ça, le risque, c'est qu'eux-mêmes abandonnent, quoi.
Ben voilà, c'est complètement. Ça, qu'ils baissent les bras et...
Bon, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux.
Donc,
Kevin Sanders, enseignant de français, et Claire Marot, le professeur de mathématiques. Vous avez écrit au recteur de l'Académie de Poitiers. On espère qu'il va vous répondre et qu'il trouvera des solutions pour ses élèves.
Merci beaucoup
d'être venu dans Séquence Midi. Demain, dans l'émission, on parlera de la journée de la promotion de la santé en Vienne qui a lieu cette semaine. Et puis, il y aura bien sûr vos sorties cinéma. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. C'est le dernier jour pour découvrir l'exposition Cyberviolence dans le hall de l'Hôtel de Ville. Et donc, c'est ouvert sur les heures d'ouverture classiques de l'Hôtel de Ville, ouvert à tous les publics. Passage musical, c'est à 18h30 à l'Hôtel de l'Europe rue Carnot, un concert tout public par les étudiants et étudiantes musiciens du pôle Aliénor à travers un programme musical éclectique. L'entrée est libre. Café thé de la GP, donc du café théâtre à la guinguette Pictave, chemin de Tison. C'est maintenant tous les mardis à 20h. La Guinguette Pictave vous propose dans sa salle intérieure un show artistique pluridisciplinaire d'1h30 mettant en valeur et en lumière l'émergence de talents de la scène amatrice et professionnelle régionale. Il y aura 6 artistes par soirée. L'entrée est gratuite. Le vrai du faux de l'activité physique, c'est à 20h30 à l'espace Mendès France. Une conférence de Laurent Bosquet qui est coordinateur de la chaire Sport Santé à l'Université de Poitiers. C'est pour tout public et c'est gratuit. Et enfin Borderline, c'est à 20h45 à la Une à Saint-Benoît. Un foot tente de faire admettre à son son psychiatre qu'il est guéri. Imaginez un psy, Daniel Russo, à 3 ans de la retraite, un peu désabusé, mais non moins professionnel. Ce soir, il est pressé quand débarque dans son cabinet un patient, Pavel, qui est joué par Philippe Lelièvre. Pavel est bipolaire. Sur Pulsar, à 18h, c'est l'émission À l'assaut, présentée par Lafèvre. À 19h, c'est Slamatouva, émission d'art oratoire sous toutes ses formes, avec pour invité spécial Sista Betsabe. À 20h, Pétale de Sakura, donc voyage en Asie. À 21h, Culture Dub, avec plein de concerts à gagner, notamment pour le House of Dub et Dub Coast. Et puis à 23h, Novorama, avec toutes les nouveautés de Michael Mayer, Baba Zula ou encore Military Genius. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte justement avec Sista Betsabe. Son dernier titre, c'est Glitter, ça vous parle des réseaux sociaux. Sista Betsabe, c'est celle qui animait Diva l'année dernière sur nos ondes. Elle est poitevine, bien sûr. Et donc, la voilà pour nous quitter. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi en musique. On se retrouve demain. Control your fire, control your air. Tell you to take this and not to take that. Buy, drink, breathe, watch, vote and cry. Some men are acting this and starving them in with Instagram. Keep the fight out and stay alive. There's no way to control this, but when I see you fist with filters, you feel like a princess in your square. Your deal is like glitz and money, fame and beauty, party, friends, troubles and booty. Where your square is cold, your mind is cold, your life is cold. And you fall in love with a prince, while no time to leave a fellow roots around. You fall down the name and you just need a smile. The worst of humanity with filters everything. Happy in the world with madness around. Falling through in real is becoming a memory of child. They control your things and they control your life. Control your life. Control your smile. Control your mind. Control your mind. Your trust has no meaning. Your body's now picking. If the ink is flowing, being a picture means nothing. Now the world is just dreaming. Reality's dying. Every day I'm just watching how the wicked rules your things. No matter what you're thinking, what the fuck are you eating? What offense and other things shining, lying is not the aim. Evil deals with the cheap things. Too much gloss and nothing. I'm not a prophet, I am real. Why do you know what I mean?